Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Raphaël, le R de Girafe. Et on continue nos petits podcasts sur l'entreprise et les entrepreneurs. Et j'ai une joie toute particulière aujourd'hui. On va faire un podcast avec Anthony et Sacha Blondel. Alors, c'est forcément un peu particulier parce qu'on est sur père et fils. On va parcourir un peu leur chemin. On va commencer par le père, hein, honneur oblige. Et ensuite, on enchaînera avec Sacha et on va essayer de découvrir un peu comment vous travaillez ensemble et puis quel a été un peu vos parcours individuels. Donc, on va commencer par Monsieur Anthony Blondel. Salut Anthony.
Salut Raph.
Alors Anthony, l'idée de ces podcasts, c'est d'abord qu'on fasse connaissance. Alors, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, ça c'est sûr, mais c'est intéressant aussi de regarder le parcours. Et puis, on va regarder après comment vous êtes... Alors, je sais que tu es Sacha aujourd'hui en alternance avec ton père. Ouais. Donc, c'est de travailler un peu ensemble sur quel était le parcours, en quoi consiste votre activité. Et puis ensuite, on pourra parler un peu du Havre, il y a pas mal de sujets. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, c'est qui Anthony Blondel?
Anthony Blondel, c'est 51 ans, 4 enfants. J'ai fait, en fait, des études, comme beaucoup, à Saint-Jean, pour y passer mon bac économique. Et ensuite, j'ai continué sur l'IUT, l'IUT GEA. De là, je me suis orienté vers une spécialité pour le commerce international. Et à la suite de ça, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un associé. Et donc, on a créé une société dans le domaine du courtage, plus spécifiquement dans le rachat de crédit à l'époque. Une entreprise qui s'appelle toujours, parce qu'elle a toujours son nom, même si en fait, on est parti sur un autre nom
qui finance ses projets. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, finance ses projets qui a été créé le 10 octobre 97.
Et t'es pas passé par la case salariée du tout?
Jamais. Jamais, parce que j'ai été diplômé en juin 97 et j'ai créé en octobre. Bon, la particularité, c'est que la création avec un associé qui avait 15 ans de plus permettait effectivement de gagner un petit peu de temps de par son expérience. Exactement. Et du coup, ça m'a permis de gagner des années et gagner en fait en notoriété rapidement. Ensuite, on a eu des chemins qui se sont séparés. On s'est quitté en fin 2006. Et j'ai racheté les parts de cette société et j'ai continué à naviguer seul sur
Alors,
la partie
aujourd'hui courtage. C'est très à la mode parce que finance et projet aujourd'hui on est au sein de l'agence Empruntis aujourd'hui. C'était quoi l'idée? Parce qu'il y avait déjà à cette époque-là une négociation des taux, enfin c'était la négociation de prêts, de crédits, c'était déjà un sujet qui était d'actualité.
Ça a toujours été. C'est-à-dire que je dirais qu'effectivement, dans des périodes haussières, on a encore plus de légitimité que quand les taux sont extrêmement bas, comme on a pu connaître sur des périodes 2016-2022. Mais quelque part, on a toujours la capacité à faire la différence, puisque notre rôle aujourd'hui en tant que courtier en financement, c'est de prendre le dossier d'un client et d'aller le chercher une optimisation. Et c'est tout l'enjeu, c'est que quand on a une volumétrie, forcément, on a des accords préférentiels. Et donc, les banquiers, nous, ils accordent des conditions privilégiées et on crée un écart significatif par rapport au particulier lui-même. Donc, ça a toujours été, il n'y a pas de sujet de saisonnalité chez nous. Voilà, on vit avec nos temps, on vit avec les taux et les marchés, ils évoluent sans cesse. Donc, on s'adapte à cette situation.
Voilà. Et donc, tu disais que financer projet, c'est donc 2000, quelle année?
97, financer projet, c'est à la base même FBC, hein, puisque ça a été connu vraiment. Comme tu dis, les 20 ans vont pas plus connaître, c'est impossible. Mais FBC, financer projet, et en 2014, j'ai souhaité faire le tour de France parce que je me suis rendu compte que le marché était en pleine évolution dans le monde bancaire. Et qu'en tant que courtier, mon fonds de commerce, ce sont en fait le partenariat bancaire. Et ouais, tant que j'ai pas l'ensemble des banques, ça devient en fait compliqué. Et donc, du coup, j'ai voulu et j'ai souhaité rejoindre un réseau national.
Pour élargir le scope, justement.
Exactement. Et aujourd'hui, financer projet, le nom juridique et commercial est devenu Empruntis, à compter du 1er février 2015.
Voilà. D'accord.
Et donc Empruntis, qui me permettait, avec 200 points de vente à peu près à l'époque, qui me permettait effectivement d'avoir un partenariat global avec l'ensemble des banques, même celles que je n'avais pas à l'époque sous l'enseigne Financer Projet.
Donc pour bien comprendre, c'est un réseau national.
Réseau national, exactement. Avec des accords cadres sur lesquels on a des accords préférentiels au niveau des taux, au niveau des accords, au niveau des rétrocessions, enfin au niveau de tout.
Oui, donc ça veut dire que géographiquement, je peux te connaître au Havre, mais si demain je descends au sud ou je monte dans le nord, je peux retrouver une agence empruntiste. Et
exactement. Et ça, d'ailleurs, ça a permis un maillage plus rapide, puisque dès 2015, en rebaptisant Financer Projet en Empruntis, j'ai aussi développé par opportunité avec un ancien banquier du groupe HSBC, j'ai développé le point de vente Empruntis Fécamp.
D'accord.
Et un petit peu plus tard, un an après, j'ai développé Empruntis Paris, où j'ai pris les 3 arrondissements, 7, 8 et 17e arrondissement.
Donc un ancrage local en Normandie, sur tes terres natales, et ensuite tu as développé un peu sur Paris.
Un peu sur Paris, exactement.
Et vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est peu, on est 5. 5, 6 avec Sacha.
D'accord. Ouais. Donc là, donc ça c'était l'aspect professionnel.
Ouais.
Sur l'aspect personnel, t'es à vrai ?
À vrai, pure souche.
Pure souche. J'ai 30 ans d'activité professionnelle et à
vrai. Ouais, c'est ça, 29. Ouais.
Donc,
ouais.
T'as vu l'évolution de la ville, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu.
Bien
peu
sûr.
Après. On va passer à Sacha parce que l'intérêt aussi de ce petit podcast, c'est de voir. Tu vois, moi j'ai des questions quand un fils travaille avec son père, c'est pas toujours facile, mais ça a certainement aussi plein de d'éléments qui peuvent te permettre d'aller un peu plus vite.
Carrément.
Donc tu vois, on va découvrir Sacha. Alors Sacha, est-ce que tu peux te présenter comme l'a fait ton père?
Donc Sacha, 20 ans. Moi j'ai pas encore d'enfant,
c'est plutôt rassurant.
Pas comme Anthony, plutôt ouais. Je suis en troisième année d'un BUTTC,
oui,
à l'IUT du Havre. Mmh. Et donc alternant chez Empruntis depuis le 18 août 2025.
D'accord.
Donc voilà, après.
Donc tu as rejoint dans le cadre de tes études, tu as 2 ans où tu vas pouvoir mettre en pratique et accompagner.
Alors pas 2 ans, une année, parce que sur ma deuxième année, je suis parti à Montréal, au Québec, que tu connais bien d'ailleurs, je crois. et donc non, là c'est pour une année avant de partir en master. Mais ouais, on a une année pleine pour bosser ensemble, quoi.
Alors ça se passe comment ? Parce que c'est intéressant, parce que tu disais en préambule que 4 enfants, donc tu sais ce que c'est que d'être père, mais comment est-ce qu'on travaille avec son fils dans un... Alors même si c'est une alternance, mais c'est quand même intéressant de voir quelles sont les règles que tu dois mettre et comment vous arrivez à trouver un quotidien tous les deux dans le boulot.
Bah, on est dans l'apprentissage, donc en réalité, même s'il a toujours baigné dans cet environnement, parce que bah, quand t'es entrepreneur, tu sais très bien comme moi que tu coupes pas le vendredi à 18h, mais qu'en réalité, t'as ça collé à la peau, et donc en l'occurrence, même le samedi, il a pu subir dans la voiture des conversations et des montages de dossiers. Bon, en plus, on n'en a pas parlé, mais effectivement, j'ai une spécificité, c'est que on fait un petit peu de gestion de patrimoine ici en plus régulièrement, et j'ai aussi développé par opportunité la transaction immobilière au travers de la structure qu'on va retrouver, Financer Projet Immobilier. Voilà. Donc, effectivement, donc, c'est toujours dans.
Retour aux premières amours.
Mais oui, ouais, voilà. Et c'est vrai que quelque part, bien évidemment, il a baigné dedans, donc il y a un gain de temps. Ouais. Par rapport à n'importe quel étudiant, forcément, c'est dans son quotidien. Il entend parler des clients, il entend parler des financements, des banquiers, des transactions, etc., etc.
D'ailleurs, c'est amusant, je fais le parallèle, mais dans les podcasts qu'on a pu faire, il y a une forme d'ADN biologique sur l'entrepreneur, parce que quand on a évolué, enfin, tu pourras nous en parler, mais quand on est jeune et qu'on évolue dans un milieu d'entrepreneur, on est un peu piqué au jeu. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle pour... Parce qu'on parlait justement en préambule de ce podcast, des nouvelles générations. Tu incarnes la nouvelle génération, qu'on soit très clair. Je ne veux pas dire que nous, on incarne la vieille, mais bon, malheureusement, on en prend le chemin. Mais comment est-ce que justement ta génération, sur ces modèles-là, qui sont des modèles qui ont fait leur preuve et qui existent encore, comment est-ce que toi, t'appréhendes justement l'alternance à cette vertu de pouvoir te faire découvrir un certain nombre de choses? Mais c'est quoi un homme de 20 ans qui rentre aujourd'hui, et est-ce que toi t'es entrepreneur, est-ce que tu as d'autres idées autour de ça, et comment t'apprends ce milieu-là?
Je pense que l'entrepreneuriat, il a beaucoup évolué. On voit à l'époque que votre génération, elle avait besoin de moins d'études, souvent pour entreprendre. Je sais pas si je pourrais dire que c'était plus facile, mais
c'était différent, on va dire.
C'était différent. C'était peut-être il y avait peut-être plus de choses à créer aussi. Aujourd'hui, on voit que le système change beaucoup, les nouvelles générations avec l'IA, avec tout ça, ça
a changé totalement. Tu penses qu'il y avait plus de choses à créer à notre génération qu'il y en a aujourd'hui ?
J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus... Il y a un peu moins de création, mais un peu plus de modification. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Finalement, on a inventé, il va falloir après optimiser.
C'est un peu ça. Maintenant, l'avantage, c'est que quand on a des schémas comme vous, entrepreneurs et tout, nous, ça nous motive vraiment aussi à entreprendre dans le futur et ça nous donne des bons exemples quand même.
Et donc t'as cette fibre entrepreneuriale forcément.
Je pense.
Ouais. Familiale.
Je pense, ouais.
Et donc, a priori, c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a l'avènement de l'IA. On en parle beaucoup aujourd'hui, enfin en tout cas de l'IA dans sa forme d'optimisation de ce qui existait déjà, parce qu'il ne faut pas non plus complètement sacraliser, parce que finalement, tu as raison, on a inventé déjà beaucoup de choses, et on est bien dans des phases d'optimisation, mais ça veut dire quand même que le champ des possibles et la modification des métiers, elle va être dingue. Est-ce qu'aujourd'hui dans le métier, alors c'est peut-être, tu vas peut-être plutôt reprendre la parole, l'IA va venir vous aider à changer un peu les...
Ouais, on entend parler de ça parce que c'est en fait tout à fait à la mode. Je pense, pour rebondir sur ce que vient de dire Sacha, c'est-à-dire que il y a eu forcément une évolution du métier d'entrepreneur, mais comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Je pense que...
Oui, une vraie simplification pour le coup. Nous, on a connu quand même une forme de lourdeur administrative autour de la création.
Ouais, mais il n'y a pas que la lourdeur administrative. Je pense que il y a 25-30 ans, un chef d'entreprise pouvait tout à fait être performant en étant un spécialiste dans son domaine d'activité. Ce que je trouve aujourd'hui surtout, c'est qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, un entrepreneur, eh bien, il doit... mettre des couches en permanence de compétences et de qualités. C'est-à-dire que c'est plus que le spécialiste dans son domaine. Il va devoir savoir aussi s'adapter sur la gestion, sur le management, sur les nouveaux outils comme l'IA, parce que ça reste un outil. Il va s'adapter sur les réglementations, sur tout un tas de choses. Et je trouve qu'il devient...
360.
Eh ouais, beaucoup plus. Et c'est ça que je trouve qui différencie. Après, l'IA, pas l'IA, l'outil, effectivement, va apporter, je dirais, des gains de temps, etc. Mais de toute façon, je vois bien qu'en l'espace de 29 ans, on fait beaucoup, beaucoup plus de choses dans une journée que l'on en faisait il y a 25 ans.
Enfin, ouais, c'est de la productivité.
Tu reçois 100 appels par jour, tu reçois 150 mails que tu vas traiter, tu fais 7-8 rendez-vous, et on ne fait que cumuler toutes ces choses-là. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne s'arrête jamais, parce que même quand tu repars chez toi, tu repasses en fait en fonction d'où tu habites, 10-15 minutes dans le véhicule à rappeler des clients que tu n'as pas eu le temps d'appeler, etc., etc.
Oui, donc il y a une mise sous pression qui est quand même un peu plus forte.
Permanente.
Oui.
Permanente.
Oui, alors qu'avant, on était quand même plus dans dans l'intuitif personnel. Où tu
rends oui, mais et puis dans, au cœur du dossier, au cœur du métier. Mais aujourd'hui, voilà, il faut vraiment s'adapter à tout ça. Et effectivement, plus il y a d'outils, plus on peut en faire et plus on en fait. Quoi. Donc effectivement, ça ne s'arrête jamais.
Voilà. Et en plus, quand tu as des projets, c'est-à-dire que ça vient se cumuler.
Parce bien
que,
sûr, bien sûr.
Un peu cumulé de nature.
Après, on peut avoir peur de l'IA parce qu'effectivement, dans certaines professions, et on le voit aujourd'hui pour un traitement de mail ou une réponse ou même un plan d'action, etc. Il y a une certaine pertinence, mais je pense que l'être humain doit toujours en fait, il a toujours sa place, exactement. Et aujourd'hui dans mon métier, oui, on fait de plus en plus de rendez-vous en dématérialisé, donc en gros visio, téléphone, etc. Rien ne remplace le contact humain sur des projets comme les nôtres qui sont des projets de vie. Donc, on parle d'argent, on parle de finances, on parle de...
On parle de temps finalement.
Mais oui, exactement. Donc,
et ça, l'IA n'arrive pas totalement à le compresser.
Non.
Donc, là-dessus, on était à l'abri. C'est quoi ta fonction, Sacha, alors, dans ton stage? Tu vas faire quoi? Parce que c'est intéressant. Une année, c'est quand même beaucoup finalement. Enfin, on peut faire plein de choses pendant un an.
Carrément.
Et comment vous avez défini, au-delà du cadre du stage ou de l'apprentissage qu'on connaît, c'était quoi votre mode de fonctionnement? Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous êtes dit on va travailler ensemble?
Alors moi j'ai un rôle aussi notamment sur la relation client, ce qui est vraiment le cœur de mes études. Mmh. Donc l'idée ça va être de voir comment optimiser cette relation, voir tout le champ des possibles qu'on peut faire.
Justement peut-être d'y mettre des outils d'optimisation, enfin il y a peut-être des choses à faire.
Carrément, notamment via des outils CRM. des choses comme ça qui permettent vraiment de se mettre au goût du jour au niveau de la communication avec les clients. Parce que faut pas passer à côté de certaines opportunités. Aujourd'hui, on a des clients qui ont besoin d'être tout le temps au courant.
Oui, et puis c'est dur la sursollicitation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand t'es sursollicité, tu peux passer à côté de choses. Ça peut te faire gagner du temps, mais finalement, paradoxalement, t'en faire perdre parce que tu passes à côté de l'essentiel. Donc c'est quand même un vrai sujet. Hein.
Donc voilà, il y a cette grosse partie là qui englobe pas mal de points, notamment dans de la prospection. Et puis après, on verra, mais l'idée, ça va être aussi de passer certainement la certification IOBSP, qui permet vraiment de travailler dans le domaine bancaire et de recevoir à terme des clients.
C'est une réglementation normative.
On peut pas exercer ce métier de courtier en financement, courtier en crédit, si on n'a pas l'habilitation IOBSP. Donc c'est une formation qui est assez complète, qui est assez longue d'ailleurs, mais qui permet de certifier en fait la capacité à recevoir des clients. Exactement, ouais, c'est à recevoir des clients et puis les conseiller, parce que ça reste en fait un métier à part. Mais effectivement, on a voulu dans un premier temps, c'est qu'il y a eu une période d'observation, même si, comme je te le disais en préambule, il y a eu des moments où il, par la force des choses dans la voiture, il subissait. Mais quelque part, même s'il a gagné du temps, il y a eu cette période d'observation, il a fait des rendez-vous avec moi, etc., pour s'apercevoir. Mais ça a permis aussi d'apporter cette nouvelle génération avec tout ce qu'on évoque, les outils, réseaux sociaux, l'IA, etc., où je suis pas très performant dans ce domaine-là. Donc,
voilà. Et les podcasts.
Exactement, exactement. Et donc forcément, ça permet...
Oui, parce que pour l'anecdote, je t'ai couru après, et c'est finalement lui qui a bien voulu te faire plier
structurer,
l'exercice.
Exactement, c'est lui qui vient, parce que voilà, sinon c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai voulu aussi qu'il puisse apporter sa pierre à l'édifice, mais en fonction de sa formation. C'est-à-dire que technique de commercialisation, par définition, c'est de s'intéresser aux clients, c'est de se dire, on a fait un état des lieux en disant, on a plusieurs milliers de clients historiques ici, on s'aperçoit que dans mon métier, ce qui a aussi changé durant ces dernières années, c'est que un client revient régulièrement.
Bah, donc, en fait, c'est 30 ans, parce que vu le cycle de vie client qui revient.
Et on fidélise. Alors maintenant, c'est vrai que ce qui me choque parfois, c'est que je finance de plus en plus les enfants de mes anciens clients. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une suite logique. Mais exactement. Mais derrière, c'est que dans l'état des lieux, il a pu se rendre compte que nos anciens clients, rien de tel que de les fidéliser, parce que techniquement, c'est ce qui coûte moins cher par rapport à des nouveaux
clients
entrés avec des acquisitions. Donc, il a voulu en fait faire un état des lieux avec une segmentation. Donc, il a travaillé sur toutes les bases de clients, les bases de données, pour pouvoir effectivement regarder quelle était la pertinence de développer ces fichiers-là. Ensuite, il y a la partie réglementation RGPD qui est en fait sur laquelle on n'est pas épargné, parce que voilà. Et ensuite, c'était de se dire, au travers de sa formation, ce qui pouvait être intéressant et ce qui pouvait être dupliqué chez nous pour amplifier, parce que c'était ça l'idée, et développer le business, c'était de dire comment aller chercher de nouveaux prospects, comment faire encore plus connaître, parce que c'est bien que j'ai 30 ans d'expérience, que j'ai un peu de réseau, mais à un moment donné, c'est de se dire comment développer aussi les nouveaux clients entrants, et sachant que...
Nouvelle proposition de service.
Exactement.
Il y a une nouvelle exigence qui s'est installée quand même en termes de clients.
Et sans vouloir substituer la banque, on a quand même cette particularité, c'est d'avoir des activités connexes qui nous permettent aussi de pouvoir répondre avec des experts en fait dans chaque domaine à différents besoins et des étapes de la vie. C'est-à-dire qu'un client qui vient ici pour un financement avec un prêt relais, on va le mettre au service transaction pour qu'il puisse rencontrer effectivement le spécialiste de la vente immobilière.
Donc,
meilleur prêt relais, c'est la transaction. Donc on va faire ça. Ceux qui veulent constituer leur retraite à terme, on a aussi une passerelle avec Assuré Projet et mon associé Charles qui est dans les bureaux, Charles Guéroux, et qui permet aussi de prendre en charge toute cette partie, je dirais, patrimoniale, toute la partie, je dirais, successorale, enfin tout ce que ça peut comporter, quoi.
Donc finalement, ça fait quoi à ce que tu disais tout à l'heure? C'était augmenter l'offre aussi en étant plus de 360 et d'offrir de nouveaux services par le biais de services plutôt techniques et spécialisés pour arriver à faire une plateforme,
de montage. Et donc, le travail de Sacha a consisté à donc faire un état des lieux de tout ça pour pouvoir rédiger un espèce de cahier des charges avec... il fallait le structurer parce que c'était pas super simple, et le mettre en forme, puisqu'on a un intervenant un peu expert dans le domaine qui est en train de vous paramétrer et de concocter un outil CRM qui va reprendre cette particularité-là, c'est-à-dire de récupérer les bases clients existants avec leur accord une fois que le RGPD aura été validé, et puis derrière développer d'autres de canaux pour pouvoir effectivement aller chercher de la prospection en plus avec des apporteurs d'affaires qu'il a recensés et tisser un lien et etc. Donc on
voit plein de projets, en tout cas c'est intéressant, et l'alternance pour ça je trouve est assez génial. Alors en plus quand ça se passe en famille, je trouve que ça a une vertu assez sympa. Moi ce que je voudrais, que là on a bien vu votre activité, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le Havre, parce que c'est un point générationnel qui est intéressant. Nous on l'a vu évoluer en tant que vieux havrais, en étant plus ou moins parti, mais c'est intéressant de voir aussi si vous voulez bien me donner un peu un point de vue d'évolution, et toi sur ta génération, justement, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue social, enfin comment tu ressens cette ville là alors je sais pas, on peut peut-être commencer plutôt par la vieille génération.
L'évolution elle est colossale, et puis à l'aube des élections municipales, bon, même si je vote pas au Havre, c'est voilà, je peux en parler, mais il y a eu un travail remarquable depuis 95, hein, Monsieur Ruffnac a fait un travail remarquable avec un relais qui, je pense, a été tout à fait aussi dans la continuité. On s'aperçoit qu'effectivement, bon, l'attrait du Havre, il est indéniable parce que
c'est vrai que l'entrée, on l'a vu. Hein, c'est...
Et oui, l'entrée du Havre, j'irais esthétiquement, on s'aperçoit qu'effectivement, du jour au lendemain, ce qui paraissait un petit peu stalinien a pris une dimension, en fait, UNESCO, etc. Les 500 ans du Havre ont eu un succès remarquable. Voilà, après, effectivement, c'est une ville où on sent qui a été largement dynamisée. On a des sièges sociaux qui sont assez intéressants.
C'est vrai qu'il y en a
plus en plus. Il y a une dynamique qui s'est créée. En fait, je sais que dans nos clients, souvent on dit, on va vendre ça à des Parisiens, mais il n'y a pas que des Parisiens. Hein. Ouais. On a des locaux qui, en fait, qui vont bien. Et donc, on a encore cette chance d'avoir l'industrie, qui, sur un plan économique, c'est un marché qui fonctionne plutôt pas mal. Et il y a encore beaucoup de choses à faire pour, quand on a en miroir, et c'est toute la particularité de mon métier avec, cette notion,
oui, parce que
tu as acheté
un super indicateur de mouvement économique. Parce que...
Bien sûr. Et donc, quand je vois, par exemple, mon confrère Emprentis Rouen ou d'autres sur Caen, il y a une dynamique qui est encore un peu plus amplifiée que le Havre. Donc, mais ça, ça s'explique par aussi la géographie. Ouais. Hein, puisque la mer, même si c'est sympa la mer, il n'y a pas beaucoup de vie de ce côté-là. Donc, effectivement.
Là, pour le coup, on n'est pas 360 du
non,
tout.
Non, du tout.
On voit bien que c'est la limite.
Ah, mais ouais. Et c'est une des limites qu'on peut constater, notamment par rapport à la volumétrie dans mon métier, hein, puisque j'ai un baromètre qui est assez révélateur.
C'est la population, quoi.
Exactement. Ouais. Exactement. Mais bon, non, belle évolution.
C'est vrai que c'est une ville qui a
vie plutôt agréable, où on circule, on stationne, on y vit plutôt pas mal, et en fait, voilà, il y a encore de beaux projets en cours.
Et toi alors, Sacha? Parce que c'est intéressant. Alors, j'ai des enfants quand on âge, donc j'ai des débuts de réponse, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet.
Moi, Le Havre, c'est une ville que j'adore. Je trouve qu'on est hyper bien là-bas. On a une image assez globale de la part des gens qui connaissent pas Le Havre, qui est plutôt négative.
Encore à votre génération ou...
Ouais, encore dans notre génération.
Parce que nous, on a connu effectivement qu'on nous est à peine dire qu'on venait du Havre. C'est-à-dire que nous, quand on dit on est à l'ouest de Paris.
Ouais.
Enfin, je sais pas si tu. Mais alors, dès qu'on disait Le Havre, d'abord, la plupart des gens positionnaient ça à côté de Dunkerque. Donc non, mais c'est intéressant, c'est que géographiquement, nous, on n'osait pas trop le dire.
Mais j'ai l'impression qu'il y a encore, cette chose-là aujourd'hui.
Ouais.
Les gens ont l'image du Havre avec le côté juste industriel, donc qui plaît pas forcément. Mais moi, je trouve qu'on est une ville qui est hyper agréable à vivre, même quand on est jeune. Il y a des choses à faire.
Oui, je trouve effectivement qu'il y a eu un vrai effort qui a été fait. Alors. La ville était un peu plus rock'n'roll dans les années 90, mais aujourd'hui, il y a quand même un vrai effort de confort de sortie pour les jeunes. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir qu'elle est placée d'un point de vue sécurité. C'est une ville qui est très sûre, finalement. Pour vous qui sortez peut-être un peu plus que nous maintenant, il y a un vrai climat sécure, je trouve.
Ouais. Ouais, j'avoue qu'on se sent plutôt en sécurité dans les rues. On n'a pas forcément de crainte quand on sort le soir. dans nos endroits habituels. Mais ce qui est bien aussi, on le voit depuis les dernières années, moi même si je suis jeune et que j'ai que 20 ans, je l'ai quand même pu le voir. Mais la ville s'expand beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, bah on essaye. Hein. Moi je me bats pour ma ville et je revendique vraiment sa beauté. Donc non complètement c'est. On a beaucoup de chance d'être là. On a beaucoup de chance.
Eh ben, écoute, je trouve que ça peut être un message positif de fin. On n'a pas abordé, mais vous aurez l'occasion peut-être d'en reparler dans un autre podcast sur le sport. Je sais que vous êtes deux grands sportifs. Donc ça, c'est aussi important parce que quand on est entrepreneur, il faut aussi avoir ce mindset du sportif et je sais que vous l'avez tous les deux. Mais bon, ça fera ouais. peut-être l'objet d'un podcast ou une émission sur le sport et vous serez invité à ce moment-là. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis, eh ben, écoutez, transmettez ça. Vous nous avez donné une image positive de ce que peut être l'entrepreneuriat familial. C'est intéressant et peut-être qui sait qu'un jour tu seras le digne repreneur le digne repreneur la suite de ton père. Car, un grand plaisir. Merci à vous deux.
Merci à toi. Merci infiniment.
Merci.